Je vous invite à ouvrir à nouveau la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21. Nous allons voir la fin de ce chapitre. Donc nous allons lire à partir du verset 22. Apocalypse chapitre 21. À partir du verset 22, et l'apôtre Jean donc écrit ceci, « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'en entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Il y a quelques années maintenant, Europresse a publié un livre écrit par Richard Baxter, pasteur puritain du XVIIe siècle. Le titre est « Le ciel ou le vrai repos ». Et en anglais, c'est « The Saints' Everlasting Rest ». Et dans ce livre, l'auteur décrit, il attend avec impatience la manifestation de cette gloire à venir, de cette gloire éternelle. Et il exhorte, il encourage les lecteurs à méditer, à vivre à la lumière de cette réalité. Et d'autres croyants avant lui ont attendu, ont médité sur cette gloire qui attend le peuple de Dieu. Le roi David, par exemple, qui malgré toute la gloire qu'il connaissait dans ce monde, malgré toutes ses richesses, va exprimer dans un psaume ou dans ses psaumes son attente de la gloire plus grande à venir. Par exemple, dans le psaume 16, il va terminer au verset 11 avec ces mots « Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. » La vie d'Abraham est résumé par ces mots, Hébreux 11, verset 10, « Il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur, la cité dont nous sommes en train de voir la description ici en Apocalypse chapitre 21. » L'apôtre Paul va résumer sa vie en Philippiens 1, verset 21, « Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. » Et l'apôtre Jean anticipe ce que nous serons dans 1 Jean 3, versets 1 et 2. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, et un peu plus loin, mais nous savons que lorsque Jésus-Christ paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Et ce qui caractérise donc les croyants, particulièrement les croyants qui sont solidement ancrés dans la foi, c'est qu'ils cultivent cette attente. Ils travaillent et ils cultivent cette attente du ciel, du repos, en méditant, premier mot sur la feuille, en méditant les descriptions du ciel que nous avons dans la parole de Dieu. Et c'est ce que Richard Baxter fait dans son livre. Et c'est sans aucun doute la motivation que l'on trouve derrière cette merveilleuse description de la Nouvelle Jérusalem que Jean nous donne ici dans ce chapitre 21 qui va se terminer dans les premiers versets du chapitre 22. Je rappelle que Jean a écrit ce livre de l'Apocalypse non pas de manière abstraite, mais il s'adresse à des chrétiens qui souffraient, des chrétiens qui étaient perplexes en voyant ce qui se passait dans le monde. Et il le fait pour qu'ils aient une confiance plus grande dans la gloire à venir, cette gloire qui nous attend, soit lors de notre mort, et plus encore à la résurrection finale lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra. L'espérance finale pour le croyant, pour chaque croyant, c'est la gloire éternelle qui nous attend en Christ. Et une foi solide va cultiver cette espérance en apprenant au sujet des bénédictions qui nous attendent, en étudiant, en anticipant par les symboles que nous avons, par les visions que nous avons ici en Apocalypse, les gloires qu'on a du mal à imaginer, on a du mal même à décrire. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Nous ne sommes pas capables aujourd'hui de saisir la merveilleuse réalité de ce que Jean a vu. Mais nous pouvons méditer les symboles que nous avons ici dans sa vision et que Dieu nous donne dans sa parole. On a déjà vu donc que le début de cette vision a identifié cette ville comme l'Église glorifiée des croyants à la fois de l'Ancien Testament mais aussi du Nouveau Testament. On a vu cela à partir du verset 12 avec le nombre 12 qui est repris plusieurs fois. On a aussi vu que la forme de la ville, représentée comme un cube, correspond au lieu très saint du temple. Et cela décrit que c'est maintenant l'habitation éternelle de Dieu. C'est son peuple pour l'éternité. Les pierres précieuses, l'or, soulignent combien le peuple de Dieu est précieux à ses yeux. Et ce peuple reflète, brille de la gloire de Dieu. Cette gloire qui vient... qui habite et qui traverse toute la ville. Et cela nous a amené au verset 21. Et maintenant, à partir du verset 22, Jean va regarder à l'intérieur de cette ville. Deuxième mot sur la feuille. Et dans ce passage, il nous donne trois affirmations, mais des affirmations négatives au sujet de cette ville. Et les théologiens agissent souvent de cette manière. Quand ils ne peuvent pas affirmer quelque chose de manière positive, ils vont le faire de manière négative. Par exemple, comment parler de l'étendue de Dieu ? Ben, on va le dire de manière négative. Il n'est pas limité. Comment parler de la vie de Dieu ? On va le dire de manière négative. Il ne peut pas mourir. Il est immortel. Comment parler de la nature de Dieu ? Il est immuable, il ne peut pas changer. Et de la même manière, donc, Jean approche cette gloire future donc, qui dépasse notre compréhension terrestre, celle que nous avons aujourd'hui. Et il déclare ce qu'il ne voit pas dans cette cité glorieuse. La première chose donc, qu'il ne voit pas, c'est que la Nouvelle Jérusalem n'a pas de temple physique. Et c'est ce qu'il dit au verset 22. « Je ne vis point de temple dans la ville. » Je ne vis point de temple dans la ville. Pas de temple dans la ville de Dieu. Mais la raison devient claire quand on se rappelle quel était le but du temple. Le temple était l'endroit où aller pour rencontrer Dieu. Dans l'Ancien Testament et même au début du Nouveau Testament, les gens allaient au temple pour rencontrer Dieu. Mais la Nouvelle Jérusalem n'a pas besoin d'un bâtiment, comme le dit la fin du verset 21, ou la suite du verset 22. « Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. » Dans cette ville éternelle, Dieu va remplir la demeure de ses enfants. Il va la remplir de manière parfaite, de sorte qu'il soit connu de manière égale partout. Le commentateur William Hendrickson écrit ceci. « La gloire et la majesté de Dieu, dans toute leur plénitude, remplissent la ville entière, et non seulement un de ses quartiers. Un temple est inutile, car la communion des croyants avec leur Dieu est directe et immédiate. Dieu habite avec son peuple, qui est constamment en sa présence aimante. » Et c'est en fait la présence de Dieu qui, dans sa gloire, a fait que le bâtiment du temple, après sa construction par Salomon, était devenu un lieu saint. Mais là, ici, à la fin, Dieu aura récupéré toute la création afin que sa gloire se répande de manière égale dans chaque coin et pendant chaque année-lumière, et cela pour toujours. La demeure de Dieu, troisième mot sur la feuille. La description de la ville de Dieu, donc par l'apôtre Jean, sans temple, vient en fait compléter ce thème biblique de la demeure de Dieu parmi son peuple. La parole de Dieu, nous le savons, a beaucoup de thèmes et nous les voyons se développer progressivement à partir du livre de la Genèse. On voit leur accomplissement dans l'histoire du salut. Et ici, nous sommes à la fin de ce thème de la demeure de Dieu parmi son peuple. Et on peut regarder en arrière, par exemple, et au livre d'Exode, et voir que Moïse a rencontré l'Éternel sur le mont Sinaï. Et il a reçu non seulement la loi, mais il a aussi reçu le plan du tabernacle, selon le modèle qu'il a vu. Il a vu le plan du tabernacle, l'habitation de Dieu dans le lieu très saint. Et quand on relit les livres d'Exode et de Nombre, on voit toutes ces fois où la gloire de l'Éternel est descendue au milieu du peuple. Elle est descendue sur le tabernacle. Et le tabernacle était construit dans ce but-là. Plus tard, Salomon a bâti le temple physique à Jérusalem pour la gloire de Dieu. Et pourtant, lors de sa dédicace, Salomon va révéler à tous qu'il sait que ce temple n'allait pas contenir Dieu. Le quatrième mot sur la feuille. Dans sa prière, Salomon dit ceci en 1 Roi 8, verset 27. Mais quoi ? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre ? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Salomon en était conscient de cela, de cette limitation. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, qu'il a commencé son ministère sur terre, la présence de Dieu s'est étendue vers l'extérieur. Jésus montre qu'il est venu remplacer le temple. C'est ce que Jean va écrire dans son évangile, Jean chapitre 1er, verset 14. Il parle de l'incarnation et le terme nous renvoie au tabernacle. La parole a été faite chair, elle a habité, si le verbe existait, on dirait, elle a tabernaclé parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre, les hommes n'avaient plus besoin d'aller au temple pour rencontrer Dieu. Ils venaient au Seigneur Jésus-Christ. Et on voit cela, par exemple, dans l'épisode où le Seigneur Jésus a nourri les 5000 hommes, un miracle qu'on trouve dans les quatre évangiles. Mais Jean, en particulier, va préciser ceci. Il dit que, en Jean 6, verset 4, que la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Et en fait, la signification ici, c'est que, voilà, vous voulez célébrer la Pâque, mais la célébration de la Pâque ne se passe pas dans un bâtiment à Jérusalem. Elle se passe ici, en présence du Seigneur Jésus-Christ, en venant à lui. Et le Seigneur va utiliser le langage du temple pour parler de lui-même. Jean 2, verset 19, par exemple. Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en trois jours, je le relèverai. » La mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ sont maintenant le lieu où nous rencontrons Dieu. Elle forme la base de notre bénédiction spirituelle. Mais ce n'est pas tout, parce que Jésus est monté au ciel. Jésus est assis à la droite du Père. Il a envoyé l'Esprit Saint à l'Église. Et l'Esprit Saint vient habiter dans le cœur des croyants. Et Paul va écrire à l'Église, par exemple, en 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Il y a maintenant en quelque sorte un caractère sacré à notre corps qui ressemble à celui du temple de l'Ancien Testament. Il ne doit être utilisé que pour la gloire de Dieu qui habite en nous. Nous sommes un temple, chacun de nous, chacun de ceux qui appartiennent à Christ. Mais l'Église aussi dans son ensemble est un temple. C'est ce que l'apôtre Pierre va écrire. En 1 Pierre 2, verset 5, « Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Mais ce n'est pas tout. Parce que la fin, nous la trouvons ici, dans notre passage, en Apocalypse 21. Après le jugement dernier, après le retour de Christ, après la résurrection de son peuple, le corps parfait de tous les croyants sera le véritable temple de Dieu, sera l'habitation de Dieu pour l'éternité. Dieu viendra demeurer dans toute sa gloire au milieu de son peuple pour toujours. On pense à Aaron, par exemple, souverain sacrificateur, qui levait les mains devant le peuple pour les bénir, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne vers sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Nombre 6, verset 24 et suivant. Mais l'expression la plus complète de cette bénédiction, nous la trouvons ici, en Apocalypse 21. Dieu habite, cinquième mot sur la feuille. Dieu habite dans toute sa gloire au milieu de son peuple. C'est la destination des croyants, de tous ceux qui sont unis à Christ par la foi. La demeure de Dieu au milieu de son peuple. Pas besoin de temple. Mais il y a une chose à préciser, et c'est le verset 22 qui nous le dit. C'est que le temple de cette ville éternelle n'est pas seulement Dieu, mais le verset 22 nous dit « Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. » Ainsi que l'agneau. Il y en a ici une des nombreuses références dans le Nouveau Testament qui souligne la divinité du Seigneur Jésus, son égalité avec Dieu le Père. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant est le temple, ainsi que l'agneau. Les croyants entrent dans la ville éternelle par la foi dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ demeure notre Sauveur même dans la ville. Il est toujours avec nous. Il est le roi de son peuple pour l'éternité. Notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ ne s'arrête pas à la mort. Elle continue. Elle continue pour toujours. Cela veut dire que lorsque quelqu'un confesse ses péchés et vient au Seigneur Jésus-Christ dans la repentance et la foi, et croit dans le Seigneur Jésus-Christ, dans son œuvre expiatoire, à partir de ce moment, à partir de cet instant, il n'y a aucun moment, sixième mot sur la feuille, aucun moment où le croyant n'a pas de sauveur qui soit dans la présence de Dieu pour présenter son œuvre et garantir son accès dans le ciel avec Dieu, dans la gloire éternelle. Il n'y a aucun moment où le croyant, celui qui est à Christ, n'a pas un sauveur qui intercède pour lui. Le Seigneur Jésus, avec le Père, sera notre temple dans la gloire pour toujours. C'est la demeure du croyant. C'est la demeure de Dieu, c'est le peuple, c'est son peuple, et ce sera pour l'éternité. Il n'y a pas de temple dans la Nouvelle Jérusalem, parce que le temple, c'est le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. La deuxième chose que nous dit l'apôtre Jean dans cette vision, c'est que la Nouvelle Jérusalem n'a pas de lumière venant des astres, verset 23. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Comme la gloire de Dieu a rempli le temple dans le passé, la lumière de la gloire de Dieu vient remplir la nouvelle Jérusalem. Tout d'abord, au sujet de la lumière, ce passage nous renvoie au récit de la création en Genèse chapitre 1. Le premier jour, Dieu a créé la lumière. Et ce n'est qu'au quatrième jour qu'il a créé les astres, le soleil et la lune. Et bien entendu, les athées vont remarquer qu'il est impossible d'avoir la lumière sans avoir le soleil ou la lune. Et cela est vrai seulement si on présuppose que la source de la lumière, ce sont les astres. Or, la Bible nous enseigne que c'est Dieu qui est la source de la lumière. Septième mot sur la feuille. C'est Dieu qui est la source de la lumière. Et ici donc, on voit comment cela était au début. Dieu lui-même était la source de la lumière dont tout le cosmos avait besoin. Mais le point ici pour l'apôtre Jean, ce n'est pas la situation astronomique dans l'univers renouvelé. Non, il affirme ici la splendeur sans égale qui va irradier de la présence de Dieu et de l'agneau. Pour illustrer cela, je rentre dans une pièce sombre avec une bougie allumée, la flamme de la bougie va paraître éclatante. Elle va briller dans une pièce qui est très très noire. Par contre, quand le soleil se lève et que le soleil brille de toutes ses forces, la flamme de cette bougie, elle devient insignifiante. On la voit presque, on la voit à peine, tellement le soleil brille. Ben, c'est la même chose dans la Nouvelle Jérusalem. Ce sera la même chose quand la gloire de Dieu va briller de la présence de son être au milieu de son peuple, avec le flambeau qui est l'agneau. Le soleil, la lune vont paraître insignifiants. Tellement la gloire de Dieu va resplendir. Encore une fois, il faut remarquer ici l'égalité entre le Père et le Fils. La gloire de Dieu l'éclaire. L'agneau est son flambeau. Ils sont égaux en tant que Dieu. Mais le Fils aime manifester la personne et les œuvres de son Père. Il est venu révéler le Père, c'est ce qu'il a dit en venant dans ce monde. Je suis venu révéler le Père. Il est le flambeau. Il est celui qui vient révéler le Père. La lumière que l'on voit autour de nous est une lumière qui est belle. La lumière blanche, on apprend ça à l'école. La lumière blanche est la combinaison de toutes les couleurs que l'on peut voir dans l'arc-en-ciel. Mais c'est une lumière qui est créée. C'est une lumière qui a été créée au premier jour. Imaginez la splendeur, la beauté de la lumière de Dieu qui n'a pas été créée. Imaginez la lumière qui n'a pas été créée, cette lumière qu'il voit dévoilée à la fin lorsque tout le cosmos sera renouvelé, cette lumière qui sera reflétée dans le flambeau qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et Jean nous rappelle ici que le Seigneur est l'agneau. Et tout au long de ce livre, nous avons vu que Jean ne cesse de rappeler cela, de rappeler l'œuvre expiatoire que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie. Et quand on verra la lumière de la gloire reflétée dans le Fils, on verra surtout son amour, huitième mot sur la feuille, l'amour de Dieu qui l'a poussé à envoyer son Fils comme substitut, comme notre substitut, comme notre sacrifice, comme celui qui est venu accomplir ce salut, sauver ce peuple, souffrir et mourir pour que nous soyons pardonnés. C'est ce qui va être révélé encore davantage à la fin. Nous verrons surtout son amour. Nous devons donc lever les yeux vers les choses d'en haut et voir la lumière dans cette ville vers laquelle nous nous dirigeons, si nous sommes à Christ. Si nous marchons avec le Seigneur Jésus-Christ sur terre, cette lumière brillera sur nous lorsque tous les ténèbres auront disparu. Mais nous voyons aussi qu'il est question des nations. Quand Jean regarde dans cette ville, il voit une métropole qui déborde d'activités. Ce n'est pas un petit nombre, on l'a déjà dit, on l'a déjà soulevé. Même si nous sommes un petit nombre ce matin, nous appartenons à un peuple immense. Et Jean décrit une foule de toutes les nations. Au début de la première partie du verset 24, les nations marcheront à sa lumière. C'est l'accomplissement de la promesse qui a été faite à Abraham en Genèse 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà l'accomplissement. Jean voit l'accomplissement au ciel. Les nations marcheront à sa lumière. Et tout au long de l'Ancien Testament, les prophètes étaient encouragés dans les périodes sombres, quand les nations extérieures venaient envahir Israël. Les prophètes étaient encouragés en pensant à cette nouvelle Jérusalem qui allait être élevée sur la montagne. Et les nations allaient accourir vers elle. Michée 4, versets 1 et 2, par exemple. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. » Des nations du monde entier. Et Jean affirme quelque chose d'extraordinaire dans les versets 24 et 26. « Et les rois de la terre y apporteront leur gloire. » Verset 26, on y apportera la gloire et l'honneur des nations. Alors ces versets posent quelques problèmes à certaines personnes parce qu'en les lisant, on a l'impression que cela implique qu'il y a des nations qui sont en dehors de la ville. Mais on doit se rappeler du contexte dans lequel ce symbolisme nous est donné. On est après le jugement final. Tous les incroyants, tous les incrédules, tous les ennemis de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ sont enlevés. Ils sont dans les temps de feu. Chapitre 20, verset 15. Et Jean voit non pas des nations apportant des richesses matérielles dans la ville de Dieu. Non, il voit des croyants. Neuvième mot sur la feuille. Des croyants qui ont été rachetés par le sang de l'agneau, qui ont été convertis par la grâce de Dieu. Et ils viennent, ces croyants, de toutes les nations. Ils viennent de cette ère dans laquelle nous vivons, cette ère de l'Église. Ils entrent dans l'ère de l'éternité. Ils entrent dans la ville. Ils ont cru dans le Seigneur Jésus-Christ ici-bas sur terre. Et ils s'offrent à lui maintenant pour l'adoration de Dieu. Et l'apôtre Jean ici cite Ésaïe 60. Il y a beaucoup de points communs avec ce passage en Ésaïe. Chapitre 60, Ésaïe a parlé de cette manière qui était appropriée. Et au verset 11, il dit ceci, « Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. » Et Jean reprend cette image. Jean reprend ce langage ici. Et vous savez sans doute que les vainqueurs de l'époque avaient entrer chez eux avec une parade, un triomphe. Et ils montraient à la foule qui était là sur le bord des routes et des rues de la ville, ils montraient le butin qu'ils avaient récupéré lors de leur victoire. Et en particulier, ils montraient à tous qu'ils avaient capturé les rois qui étaient enchaînés, les responsables, ils étaient là et ils marchaient. Mais dans la ville éternelle, le butin du Seigneur Jésus-Christ est composé de ceux qu'il a gagnés par grâce, de ceux qu'il a sauvés par son œuvre sur la croix et ils viennent de toutes les nations, de toutes les langues. Ils apportent la gloire et l'honneur, ce ne sont pas des richesses matérielles, non, ils apportent l'adoration. Le dixième mot sur la feuille. Ils apportent l'adoration et la louange à Dieu. La seule chose que nous pouvons amener, c'est la réputation de nos œuvres. On a déjà vu cela au chapitre 14 et au verset 13, ou au chapitre 19 et verset 8. Je ne citerai que celui-là. 19, verset 8. « Il a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Ces œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, ces œuvres qui rendent gloire à Dieu, qui rendent gloire à l'agneau, au Seigneur Jésus-Christ. Et Jean de préciser que cette ville n'a pas besoin de fermer ses portes, verset 25. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. Il n'y a pas d'insécurité. On fermait les portes dans les villes la nuit pour garder, pour protéger. Mais là, il n'y aura pas de nuit. Il n'y a pas d'insécurité. Mais il y aura une paix, une bénédiction éternelle sur la ville de Dieu. Et la troisième chose que Jean nous décrit ici, c'est que la Nouvelle Jérusalem est une ville sans péché. Une ville sans péché, verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Tout d'abord, ce que Dieu condamne, j'en parle ici de ceux qui ne sont pas régénérés, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ceux dont la nature reste corrompue, onzième mot sur la feuille, corrompue par le péché, qui se sont livrés au mensonge, qui se sont livrés à l'idolâtrie et à l'incrédulité. J'en fais bien sûr référence à tout ce que Dieu condamne dans sa parole, chapitre 22, chapitre suivant, verset 15. Jean va expliquer cela, va rapporter les paroles du Seigneur. « Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime et pratique le mensonge. » L'apôtre Paul a donné une liste similaire, un peu plus détaillée en 1 Corinthiens 6, versets 9 et 10. « Ne savez-vous pas que ni les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ?» Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Dans notre société qui est immorale, il est absolument essentiel que nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, nous déclarions la vérité de Dieu au sujet de sa haine. De sa haine contre le péché tel que l'adultère, tel que l'homosexualité, mais aussi contre l'idolâtrie qui est la cupidité, l'amour de l'argent, le vol. Notre société qui prétend être tolérante ou qui veut que nous soyons tous tolérants, notre société, elle, ne tolère pas l'enseignement de la parole de Dieu, douzième mot sur la feuille, au sujet de ses péchés. Elle n'accepte pas ce que Dieu déclare. Mais face à cela, nous devons déclarer la vérité de Dieu dans l'amour, mais aussi avec assurance. Et le jour vient peut-être où cela nous amènera devant un juge. Mais nous devons déclarer haut et fort la vérité de la parole de Dieu. Dieu a horreur du péché. Dieu condamne le péché. Mais il offre aussi son pardon en Jésus-Christ pour les pécheurs. Dieu a horreur du péché. Nous devons déclarer cette réalité. Un prédicateur, un pasteur du 19e siècle, J.C. Ryle, a décrit ces personnes que l'on peut trouver dans le monde. Et il dit: vous savez bien qu'il y a de telles personnes, le monde peut faire l'éloge de leurs pratiques. Il peut les décrire comme étant légers, gais, libres et tout fous. Mais ces personnes sont une abomination aux yeux de Dieu. Et à moins qu'elles ne se convertissent et soient nées de nouveau, elles n'entreront pas dans la cité de Dieu. Ce n'est pas notre parole, c'est la parole de Dieu. Il n'entrera point, il n'entrera chez elles rien de souillé. Mais il y a un contraste. Il y a ceux que Dieu condamne, mais il y a aussi ceux que Dieu accepte. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Qu'est-ce que ce livre de vie? C'est le livre dans lequel sont inscrits tous les noms des élus, de ceux que Dieu a choisis dans sa grâce souveraine, qu'il a appelés à lui par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un don. Le jugement de Dieu est mérité, mais le pardon de Dieu est un don. Bien sûr, nous n'avons pas accès à ce livre. Nous ne savons pas qui est écrit dans ce livre. Par contre, nous pouvons savoir le caractère de ceux qui sont inscrits. Et J.C. Ryle continue et il nous donne trois traits de caractère. Tout d'abord, ces personnes sont tous repentants, 13e mot sur la feuille. Ils ont ressenti la condamnation de leur péché. Ils ont pleuré devant Dieu à cause de leur culpabilité. Ils ont vu qu'ils avaient désobéi à la loi de Dieu. Ils ont même haï la présence du péché dans leur vie. Et ils se repentent. Il dit aussi que le deuxième trait de caractéristique, c'est qu'ils croient, 14e mot sur la feuille, ils croient dans le Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui sont dans cette ville sont des personnes qui se sont repenties et qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont cru dans cette vie, ils ont persévéré jusqu'à la fin, allant même contre ce monde, mais ils ont cru dans le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, ils sont tous nés de l'Esprit de Dieu, 15e mot sur la feuille. Ils ont été sanctifiés. Ils ont commencé dans cette vie de leur sainteté, de manière imparfaite, mais elle sera rendue parfaite dans la gloire. Ils ont tous été renouvelés par l'Esprit de Dieu. Leur vie a été caractérisée par ce désir de sainteté. Ils aiment Dieu, ils veulent vivre pour lui. Et voilà comment on peut voir si l'on est nous sur le chemin vers cette ville, vers cette nouvelle Jérusalem. Voilà comment on peut voir, on peut détecter ce qui caractérise ceux dont le nom est inscrit sur le livre de vie. Être membre d'une église ne suffit pas. Avoir connu une expérience marquante un jour dans notre passé ne suffit pas. Donner à l'Église, à l'œuvre missionnaire ne suffit pas. Faire de bonnes œuvres pour avoir une bonne réputation, ça ne suffit pas. Non, les marques de ceux qui sont dans le livre de vie sont la repentance, la foi dans le Seigneur Jésus-Christ et la vie renouvelée par l'Esprit de Dieu qui recherche à plaire à Dieu en toutes choses. Dans le temps, les croyants avaient rédigé plusieurs confessions de foi, plusieurs catéchismes, et entre autres, en particulier, le petit catéchisme de Westminster commence avec cette première question. Quel est le but principal de la vie de l'homme? La réponse est, le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Et c'est ce que Jean décrit ici. Pour tous ceux qui sont en Christ, nous allons vivre dans la présence même de Dieu pour toujours. Nous allons être avec lui pour toujours. Il n'y a pas de temple, pas d'astre qui vienne éclairer. Non, Dieu sera notre tout et l'agneau sera notre tout. Alors à la lumière de cela, qu'est-ce que l'on peut dire? À la lumière de toutes ces bénédictions, nous pouvons souligner trois choses. La première chose, c'est que si notre destinée en tant que croyant est de vivre, de passer l'éternité avec Dieu, cela devrait nous pousser à rechercher la communion avec Dieu dès ici-bas, 16e mot sur la feuille, à mettre du temps à part pour le passé, passer ce temps avec Dieu, dans la lecture de sa parole, dans la méditation de sa parole. Ce n'est pas un légalisme, pas pour se prouver à quelqu'un, ni même de se prouver, de faire ses preuves devant Dieu, non. Mais c'est pour mieux le connaître. Pour mieux le connaître. Et parfois, Dieu nous envoie des épreuves, justement, pour nous arrêter dans notre course, pour que nous passions du temps à réfléchir à qui il est, afin de mieux le connaître. Cette vision de Jean devrait nous aider à changer notre approche de la lecture de la parole et de la prière personnelle, pour que nous ne les voyons pas comme une routine sans intérêt, mais qu'au contraire, que nous réalisions que ce sont des moments privilégiés, des moments de rencontre avec Dieu, où nous apprenons à le connaître, où nous apprenons où il nous prépare pour ce jour où il nous amène, nous fait entrer dans sa présence avec lui pour toujours. La deuxième chose, c'est que cette ville a pour seule lumière la gloire de Dieu et de l'agneau. Et cela nous rappelle que nous, ici-bas, pendant que nous sommes sur terre, nous sommes appelés à porter la lumière de l'Évangile. 17e mot sur la feuille. Par nos vies, par nos actes, par notre témoignage, par nos paroles, nous devons rayonner dans ce monde. Paul utilisera ce langage, il parle de flambeau. Nous sommes dans le monde comme des flambeaux qui portent la parole de Dieu. La parole de cet évangile glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la troisième chose, c'est que en réalisant qu'aucun incroyant n'entrera dans cette ville, nous devons d'une part ne pas cesser d'annoncer, d'appeler ceux qui sont autour de nous à venir, à croire au Seigneur Jésus-Christ. Mais nous devons aussi nous examiner nous-mêmes, d'ici 18e mot sur la feuille. Est-ce que je suis venu à Christ dans la repentance et la foi? Est-ce que mes péchés ont été lavés par le sang de l'agneau? Ou est-ce que l'accès de cette ville me sera refusé parce que je ne suis pas lavé dans le sang de l'agneau? Il n'entrera chez elle rien de souillé. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce message est annoncé aujourd'hui, avant le retour de Christ, avant le jugement dernier. Cela veut dire qu'il y a encore une opportunité. 19e mot sur la feuille. Il y a encore une opportunité de venir à Christ dans la repentance et la foi. Et Jean écrira au chapitre suivant, verset 14, « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville, entrer dans les portes dans la ville. Le seul accès dans cette ville, c'est par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ et dans son œuvre. » C'est une merveilleuse destinée qui est la nôtre si nous sommes à Christ. Mais si nous ne sommes pas à Christ, la seule chose que nous pouvons faire pendant qu'il est temps, c'est de venir à Christ dans la repentance et la foi. Que Dieu nous aide à méditer sur ces réalités, qu'il nous aide à méditer sur ces symboles qui nous décrivent quelque chose qui est glorieux, qui dépasse notre entendement, et qu'il nous fasse la grâce de faire partie de ceux qui entreront dans cette ville, qui font partie de cette ville, qui entreront par la porte et qui passeront l'éternité à se réjouir dans la présence de Dieu et dans la présence de l'agneau avec qui ils seront pour toujours. Que Dieu bénisse donc sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.